Les inscriptions sont donc désormais closes pour le second tour des législatives qui se tiendra dimanche, je vous le rappelle. Plus de 200 candidates et candidats se sont donc désistés pour faire barrage au Rassemblement national. Qui sont-ils et les consignes nationales ont-elles été finalement respectées? C'est ce que nous allons voir dans notre séquence « Les éclaireurs ». Bonsoir Jeanne Daudet.
Bonsoir Yves, bonsoir à tous.
Les candidats avaient jusqu'à 18h pour dire si oui ou non ils se présentaient devant les électeurs dimanche.
Oui, exactement. Et donc dimanche, dans 501 circonscriptions, il y aura un second tour des législatives. 218 désistements d'après le dernier comptage de nos confrères du Monde. En très grande majorité, ces désistements pour faire barrage au Rassemblement national. C'est principalement la gauche qui s'est désistée avec 128 candidats qui ont renoncé. 79 candidats de la majorité présidentielle ont décidé eux aussi de ne pas aller au second tour. Parmi ces candidats, cinq ministres qui ont décidé justement de ne pas se présenter pour faire barrage au Rassemblement national. Il y a d'abord Sabrina Agresti-Roubache, première circonscription des Bouches-du-Rhône, Dominique Faure, 10e circonscription de Haute-Garonne, la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, avait d'abord annoncé dans un premier temps maintenir sa candidature avant de renoncer aujourd'hui à la demande, dit-elle, du président de la République et du Premier ministre. Fadila Kabati, ministre chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, n'ira pas en Côte d'Or. Même décision de Marie Guévenoux, la ministre déléguée chargée des Outre-mer et députée sortante, qui a décidé de renoncer en Essonne. Et Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargée des anciens combattants, prend la même décision dans la première circonscription de l'Hérault.
Tous les candidats arrivés troisième n'ont pas voulu se désister dans des circonscriptions où l'ORN est en passe de l'emporter.
Oui, exactement. Il y a 35 candidats qui ont décidé de se maintenir malgré le Rassemblement national. Il restera donc des triangulaires ou des quadrangulaires. Dans près de la moitié d'entre elles, vous voyez, ce sont des candidats de la majorité présidentielle qui ont décidé de se maintenir. Exemple, dans la circonscription d'Éric Ciotti dans les Alpes-Maritimes. Lui est arrivé en tête avec, vous le voyez, un peu plus de 41% des voix, suivi d'un candidat La France Insoumise, Nouveau Front Populaire, à un peu plus de 26%. Le candidat Horizon, arrivé troisième, a décidé de se maintenir. Il ne veut pas renoncer, dit-il, explique-t-il, en faveur d'un candidat La France Insoumise. Et puis, il se dit seul apte à battre Éric Ciotti dimanche. Mais parfois, certains candidats refusent de se désister en faveur d'un candidat socialiste. Cette fois, c'est le cas d'Anne-Laurence Pétel dans la circonscription, la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône. Vous voyez qu'elle arrivait troisième derrière un candidat PS et derrière surtout un candidat républicain associé au Rassemblement national qui lui est arrivé en tête. Dans 12 circonscriptions sur 35, c'est un candidat Les Républicains ou divers droites qui a décidé de se maintenir malgré sa troisième position. Enfin, dans 7 circonscriptions, un candidat de la gauche se maintient malgré le Rassemblement national. Il faut noter que dans une seule d'entre elles, un candidat de la gauche s'est maintenu malgré le Rassemblement national arrivé en tête. Il faut dire que le deuxième candidat, il s'agit d'Emmanuel Ménard, qui était jusqu'à présent soutenu par le Rassemblement national.
Merci beaucoup Jeanne Daudet. Alors avec nous ce soir pour commenter cette actualité, Agnès Buzyn, ancienne ministre des Solidarités et de la Santé, Laurence Rossignol, sénatrice socialiste du Val-de-Marne, première secrétaire déléguée du Parti Socialiste, Mathieu Vallet, député européen Rassemblement national, Sébastien Ligné, journaliste politique à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, et Amandine Atalaya, éditorialiste politique de notre chaîne. Amandine, alors que la cacophonie règne depuis deux jours dans les rangs de la majorité présidentielle, quelle ligne l'a emporté? Aucune voix au RN ni à LFI. On en est où au moment où on parle?
On va dire que c'est plutôt la ligne du Premier ministre qui l'a emporté, à savoir il faut faire barrage au Rassemblement national, plutôt que celle de plusieurs ministres qui étaient issus de la droite, comme Édouard Philippe ou Bruno Le Maire, qui disaient ni RN ni LFI. Il y a finalement quand même beaucoup de désistements dans le camp de la majorité présidentielle. Finalement, ce travail-là a été fait, même si ça a été le bazar absolu sur des consignes incompréhensibles et contradictoires où personne ne s'est réellement entendu au sein de la majorité. Le job est fait à la fin, globalement. Édouard Philippe, qu'on voit là, n'a lui-même pas été écouté par tout le monde dans son propre camp, puisqu'il y a par exemple en Seine-Maritime l'un de ses députés qui s'est désisté au profit d'une candidate de la France Insoumise, Alma Dufour, qui est tendance canal historique, proche de Jean-Luc Mélenchon. Donc vous voyez, chacun a vécu sa vie en fonction aussi de sa conscience et de ses idées. Reste maintenant aux électeurs à essayer de dépatouiller tout ça et à décider. Le risque serait qu'il y ait une forme de démobilisation et que certains se disent soit je n'ai pas tout compris, soit voter complètement contre mes convictions, mais vraiment trop difficile, à l'issue d'une semaine qui a été extrêmement bouleversée.
Agnès Buzyn, sur quelle ligne vous retrouvez-vous ? Faut-il faire barrage au RN et à LFI, comme le préconise votre ancien chef de gouvernement, Édouard Philippe ?
Alors, je pense que d'abord, les électeurs votent comme ils le souhaitent. C'est-à-dire, bien je sûr. Pense que les consignes de vote ne marchent pas. La deuxième chose, c'est que je crains que envoyer les gens voter pour LFI, notamment des gens de la majorité, risque d'être contre-productif et risque d'éloigner encore plus les électeurs du RN vers un parti loin de l'arc républicain, alors que si on vise le temps long, nous avons plutôt intérêt à les faire revenir. Et donc je trouve que dire que LFI est un parti comme les autres, sur lequel on peut mettre une voix, brouille le message de l'arc républicain. Donc je pense que pour le long terme, nous devons être prudents. Et je pense qu'en tous les cas, beaucoup d'électeurs de ma sensibilité, qui sont de centre-gauche en ce qui me concerne, ne pourront pas mettre un bulletin LFI dans l'urne. Donc je ne sais pas à quel point ces désistements vont être productifs.
Vous ne pouvez pas mettre un bulletin LFI contre un bulletin RN.
Je ne mettrai jamais un bulletin RN dans l'urne, soyons clairs. Et je pense qu'aucun vote ne doit aller au Rassemblement national. Et j'aurais envie de dire des choses aux électeurs du Rassemblement national, si vous m'en laissez le temps tout à l'heure. Mais je pense que pour moi, LFI aujourd'hui est partie de l'arc républicain et qu'il est une des raisons du vote Front National. On ne peut pas guérir la maladie LFI ne peut pas être la solution alors que ça a été la cause du vote RN pour un certain nombre d'électeurs.
Laurence Rossignol, Marine Tondelier dénonce la lâcheté de certains responsables politiques comme Bruno Le Maire. Êtes-vous aussi sévère avec tous ceux qui refuseront coûte que coûte de mettre un bulletin LFI dans une urne dimanche ?
Écoutez, je crois qu'on a fait...
C'est le cas d'Agnès Buzyn qui vient de l'assumer dans notre émission.
On a fait toute la campagne avant le premier tour autour de la question de la place de LFI dans l'alliance du Nouveau Front Populaire. Ouais. Et tout ce qui pouvait et devait être dit et dénoncé sur un certain nombre des députés sortants de LFI et des candidats LFI a déjà été fait pour le premier tour.
Là, je parle du second tour, hein, vous l'avez compris, je pense. Là, je vous parle du second tour.
Oui, mais je pense que j'ai compris qu'on est entre le premier et le deuxième tour.
Voilà. Comme j'avais l'impression que vous preniez le périphérique...
Non, mais maintenant, on est dans une deuxième phase.
En effet.
Est-ce que la France se dote d'une majorité Rassemblement National et ses alliés, ou est-ce que la France résiste à cette majorité ? Ce que j'observe, c'est que les deux tiers des Français, malgré la dynamique des Européennes, n'ont pas voulu pousser un député du Rassemblement National. Mais en raison de notre système électoral, il faut leur faire une proposition politique qui leur permette de prolonger ce vote. Et c'est pour ça que les désistements des candidats... Alors, les électeurs, bien sûr, ils font ce qu'ils veulent, c'est vrai. Mais quand il y a un candidat de moins, ça facilite aussi le choix pour les électeurs de faire ce qu'ils veulent. C'est plus facile dans un duel que dans une triangulaire. Et aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est de savoir si le camp républicain est capable, dans sa totalité, de se souder autour d'une seule échéance, empêcher le RN de gouverner la France, empêcher Bardella d'aller à Matignon. Donc, c'est pour ça que je comprends. Par ailleurs, je comprends ce que dit Agnès Buzyn, mais je pense qu'il y a un temps pour tout et que ce qui se passe en ce moment est aussi une recomposition politique qui est à l'œuvre. Et dans cette recomposition politique, il faut être optimiste d'un certain point de vue. Il faut être optimiste et que LFI a probablement pas le même avenir que son passé.
Sébastien Ligné, ces deux courants qui s'affrontent en fait au grand jour au sein de la Macronie, est-ce que ça signe l'arrêt de mort de la majorité qui a gouverné pendant 7 ans notre pays ?
Je pense que c'était déjà le cas depuis les élections européennes, mais surtout ça pose la question de la cohérence globale du projet, parce que si vous voulez, et de cette improbable union entre différentes chapelles qui ne peuvent pas se voir, qui ne sont d'accord sur absolument rien, sur aucun sujet, de l'économie à l'insécurité en passant par la culture, ils ne sont d'accord sur rien. Et si vous voulez, ça pose aussi et surtout la question du projet fondamental défendu par ce Front républicain. Parce qu'on a compris que, et vous l'avez répété à l'instant, l'enjeu premier, c'était faire barrage au Rassemblement national. Très bien, c'est un projet initial. Mais ce n'est pas la finalité. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Imaginons, au soir du second tour, le Rassemblement national n'a pas de majorité absolue, le Front républicain a gagné. Qu'est-ce qui se passe ? avec qui on gouverne. Est-ce qu'on fait un gouvernement d'experts, comme on peut l'entendre un petit peu à droite à gauche, oui, au sein de la majorité, un gouvernement d'experts qui n'a jamais été testé au sein de la Ve République?
Non, mais qui est fait dans toute l'Europe, oui, en tout cas dans beaucoup de pays.
Est-ce qu'on fait un gouvernement d'union nationale, comme on l'a entendu, qui irait finalement de Fabien Roussel à Jean-François Copé, avec Boris Vallaud, Premier ministre?
Ben là, je demande à voir quand même.
Et Marine Tondelier, ministre de l'écologie, tout ça chapeauté par Emmanuel Macron, mais personne ne peut croire une seule seconde que ce gouvernement tiendrait. Et surtout, j'en finis avec cela, parce que ça pose quand même une dernière question, et c'est la plus importante. Ah. C'est est-ce que ce gouvernement d'union nationale, ce à quoi donc se dirigerait ce Front républicain, est-ce que c'est ce à quoi aspirent les Français? Moi, je pense que ce serait un contresens démocratique, et ce serait ne pas avoir entendu le message qui a quand même été envoyé lors des élections européennes et lors de ce premier tour des élections législatives. C'est qu'il y a quand même une majorité de Français qui ont envoyé un message à Emmanuel Macron sur la question de la sécurité, sur la question de l'immigration. On ne peut pas simplement occulter ça en se cachant derrière un Front républicain qui, malgré tout, est quand même uniquement moral.
On va évidemment parler un peu plus tard de la formation éventuelle d'un gouvernement, mais Mathieu Vallet, est-ce que ça vous blesse personnellement que le chef de l'État et des millions de gens, finalement, considèrent que vous, le RN, représentez un danger pour la République ?
J'ai été 20 ans policier, vous savez, M. Calvi, il en faut pour me blesser. J'ai vécu l'ensauvagement du pays 20 ans dans les quartiers difficiles parce que j'estimais que c'était là où j'étais le plus utile avec mes collègues. Donc, pardon, mais il va falloir un peu plus que les déclarations un peu bizarres du chef de l'État. Moi, je veux juste simplement dire quelque chose sur votre antenne, M. Calvi, ce soir. Il y a 15 jours, puisque vous parlez du chef de l'État, M. Macron quittait ses habits de chef de l'État pour redevenir chef de la majorité. Il nous expliquait que le Front populaire composé de la France insoumise, c'était l'antiparlementarisme, l'antisémitisme et que c'était le communautarisme. Et aujourd'hui, on a cette alliance du déshonneur. Vous prenez la 10e circonscription du Nord où il y a David Guéraud. Vous avez la candidate Renaissance qui s'est désistée. Oui. Et donc, les électeurs dimanche apprécieront. Est-ce qu'ils veulent aujourd'hui voter pour des gens de mouvance d'extrême gauche qui finalement veulent vider les prisons, ont investi des fichiers S, veulent aujourd'hui désarmer la police, veulent créer une montagne d'impôts et de taxes sur la France du travail, celle qui ne dit jamais rien, cette France silencieuse où ce midi j'étais devant l'usine Brossard pour aller voir ceux qui ne disent jamais rien et qui travaillent.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent?
Ils nous disent qu'ils veulent du changement.
Sincèrement.
J'ai pas l'habitude d'être malhonnête.
Vous m'avez compris.
Mais justement, ils nous demandent.
Ils sont pas tous RN, hein, donc voilà.
Non, mais on essaye de les convaincre. Hein.
J'ai bien compris. RN,
mais j'ai même à l'épreuve, c'est que chez nous on n'est pas sectaire et on appelle par exemple à ces patriotes de gauche qui ont le cœur qui saigne quand ils voient que certains élus de la France insoumise maintenant associés aux amis de Mme Rossignol du Parti Socialiste disent que le Hamas n'est pas une organisation terroriste. Est-ce que la laïcité aujourd'hui...
J'ai bien compris, vous en appelez aux patriotes de gauche.
Patriotes de gauche et de droite, mais vous savez, c'est pas nouveau. Mais Jordan Bardella l'a dit dès dimanche dernier lors des résultats du second tour. Nous l'avions déjà dit avant le premier tour. M. Ciotti a eu le courage avec ses alliés de nous rejoindre et on dit à ses élus républicains sur l'autorité, sur la sécurité, sur le réarmement moral et juridique de la police, sur les peines planchées, sur les peines minimales, sur tous ces sujets concrets, on se rejoint. Quand la France est en jeu, c'est l'essentiel qui est en jeu. Et donc, sur les programmes, j'estime que sur l'essentiel, on doit se réunir parce que moi, je ne veux pas d'un gouvernement d'experts, je veux d'un gouvernement qui soit issu de l'émanation du peuple et donc d'une majorité absolue. Et moi, j'y crois, M. Calvi. Je suis persuadé que dimanche, on peut avoir une majorité absolue.
Agnès Buzyn, même si ça s'est fait dans la douleur, le nombre de désistements montre quand même que le Front républicain existe encore dans notre pays en 2024, on est d'accord ?
Bien sûr, heureusement que des valeurs comme celle du droit des femmes nous relient avec Mme la sénatrice, même si on n'a pas toujours été d'accord. Je pense que sur les objectifs fondamentaux, la protection des personnes, le fait de ne jamais livrer qui que ce soit à la vindicte populaire, eh bien, ça, ce sont des valeurs fondamentales de notre pays qui ne sont pas respectées par les deux extrêmes, quelque part. Et c'est pour ça que je suis très prudente sur le positionnement aujourd'hui, parce que je veux reconstruire, je veux penser à l'avenir. Je veux savoir comment on va reconstruire quelque chose de crédible pour les Français à partir du 8 juillet. Et il faut que la ligne soit claire sur les valeurs. Et là-dessus, nous les partageons avec grand nombre de républicains, de gauche comme de droite.
Mais cette vague de désistement quand même majeur vous redonne de l'optimisme d'une quelconque façon, Laurence Rossignol, voire de l'énergie pour le second tour?
Oui, tout à fait, parce que moi je pense qu'on peut au deuxième tour, les Français peuvent au deuxième tour faire barrage au Rassemblement National, empêcher Bardella et toute sa clique et tous les députés, parce que monsieur, les leçons de patriotisme, c'est pas sérieux de la part d'une formation
politique. Si, je suis fier d'avoir servi la France, madame, donc vous n'allez pas me faire une leçon de patriotisme, ça je vous le rassure.
Les leçons de patriotisme, je disais, c'est pas sérieux de la part d'une formation politique qui présente aux législatives des candidats qui, pour certains, ont été embarqués par Poutine pour aller faire la caution aux élections du référendum en Russie, des candidats qui sont poutiniste, mais franchement poutiniste.
Qui, madame ?
Et qui aujourd'hui, ce que les Français comprennent très bien, c'est que ce qui se joue dans cette élection, c'est pas simplement leur quotidien, c'est la place de la France en Europe et dans le monde. C'est ça aussi qui se joue. Et les Français, moi je trouve qu'on a un peuple assez remarquable. Depuis 2015, depuis les attentats, les Français se sont toujours parfaitement bien conduits, aussi bien au moment des attentats, aussi bien par la suite quand il a fallu deux fois de suite, pour des gens comme moi, voter pour Emmanuel Macron, dont je savais que la politique qu'il allait mener n'était pas celle qui convenait au pays. Mais à chaque fois, les Français ont fait le bon geste. Et ils vont, je pense, continuer de le faire cette fois-ci. Et donc, effectivement, nous allons ensuite apprendre quelque chose de nouveau, qui est le concept des coalitions. Mais ce qui est intéressant dans les coalitions, on n'a jamais fait ça en France.
Ça rend intelligent les coalitions ou ça fait perdre du temps ?
En tous les cas, si je regarde comment ça marche chez nos voisins qui savent faire...
Ah ça, chez nos voisins, oui, enfin, ils ont des constitutions et une histoire politique qui les prépare à cela. Mais, ce qui n'est pas le cas du tout de la France, en tout cas, désiré par le général de Gaulle initialement, et puis dans la constitution préparée par Michel Debré.
On a une constitution qui a 60 ans. Personne n'a jamais dit que les constitutions devaient être éternelles, ni dans leurs lettres, ni dans leurs pratiques.
Ah bah alors on change de constitution ?
Ni dans leurs lettres, ni dans leurs pratiques. Et la nôtre permet aussi d'autres pratiques constitutionnelles. D'ailleurs, Emmanuel Macron s'en est pas privé, de pratiques constitutionnelles assez décalées par rapport à la lettre.
C'est pas faux.
Il nous a montré que c'était possible.
Oui.
Donc aujourd'hui, on a une constitution qui peut nous permettre aussi de nous adapter à une situation nouvelle. Et je ne suis pas inquiète sur les responsables politiques. Et juste un mot, quand je vois le nombre de désistements et le nombre de parlementaires avec le temps de deuil nécessaire quand on vient de perdre une élection, c'est normal, il faut quand même 24 heures pour dire « Allez, je me retire et je donne la place à celui qui est devant moi, c'est humain
oui, ». Oui.
Quand je vois le nombre de parlementaires qui sont désistés, je sais que l'alternative pour les Français, ce n'est pas entre le chaos et la bande des lepénistes. On a une autre possibilité qui est là, c'est celle de l'intelligence collective pour redresser le pays. Et ça ne se fera pas, bien entendu, sur la poursuite de la politique macroniste qui a été effectivement battue dans les urnes.
Amandine Atalaya, c'est la stratégie de l'entre-deux-tours pour le RN, dénoncer, on va dire, la soi-disant alliance Macron-Mélenchon. On a même vu Jordan Bardella poster un montage montrant Macron et Mélenchon se serrant la main sous la bannière du Front populaire.
Oui, il a toujours essayé de dire que Mélenchon serait le futur Premier ministre de la gauche. Il faut dire que Jean-Luc Mélenchon continue d'horripiler bon nombre d'électeurs et de gauche et d'électeurs macronistes qui sont aujourd'hui appelés pour certains à voter pour un candidat du Nouveau Front Populaire pour faire barrage.
Oui.
Donc c'est potentiellement relativement efficace cette stratégie. Et on peut ajouter que Jean-Luc Mélenchon y a encore mis du sien dès le soir du premier tour en faisant sa fameuse allocution tout seul à 20h05 avec Rima Hassan à sa droite, que beaucoup considèrent comme complètement en décalage avec les valeurs de la République et ayant tenu des propos choquants. Cela étant dit, c'est difficile aujourd'hui pour les électeurs, en effet, d'arriver à comprendre la position d'Emmanuel Macron sur la France insoumise, parce qu'il se sert à chaque fois du Front républicain quand il en a besoin, entre deux tours de la présidentielle en ce moment, et le reste du temps, il a des propos d'une violence sur la France insoumise qui, soit avec Jean-Luc Mélenchon, est un fauné de l'antisémitisme, soit qui a un projet immigrationniste, soit qui n'est même pas dans l'arc républicain, donc hors des valeurs républicaines, qu'il devient après. Forcément plus difficile d'expliquer pourquoi il faut malgré tout aller voter pour des candidats de la France insoumise pour faire barrage. C'est-à-dire que s'il était moins violent le reste du temps, ce serait plus facile. Ou alors, il est si violent qu'il considère qu'ils sont réellement hors de la République et que alors, le faire barrage n'a pas de sens. Et en fait, on en revient à la question que vous posez. Est-ce que les électeurs vont suivre les consignes ? Et il y a plein de cas concrets. Par exemple, il y a cette circonscription de la Sarthe qu'on regarde beaucoup, où c'est Marie-Caroline, la sœur de Marine Le Pen, qui est en tête.
Marie-Caroline.
En numéro 2, c'est un candidat LFI. En numéro 3, le Renaissance s'est retiré. Mm-hmm. Bon, que font les électeurs Renaissance ? Vous, par exemple, vous iriez voter pour le candidat de la France Insoumise pour que Marie-Caroline Le Pen ne soit pas élue ou pas ?
Moi, je sais que je voterai blanc. Je ne suis pas capable, physiquement. Je ne suis pas capable de mettre un bulletin LFI ou RN.
Au risque que Marie-Caroline Le Pen soit élue, par exemple.
Ça doit concerner pas mal de Français.
Je pense que la ligne claire, en réalité, va rassurer un certain nombre d'électeurs aussi pour l'avenir. Parce que ce qu'il faut espérer, c'est que cette situation, elle soit temporaire. Alors certes, on ne pourra pas dissoudre pendant un an, mais enfin, dans un an, il est possible de redissoudre de nouveau. Moi, je suis confiante, comme Madame la Sénatrice, sur le vote des Français, qui est toujours un vote intelligent et qui, en général, rétablit des équilibres quand il part un peu trop dans un sens.
Hommage à nos sénateurs.
Absolument. Et je pense qu'il y a vraiment la place pour un gouvernement de gens responsables. La plupart du temps, les gens pensent qu'on se déchire à l'Assemblée nationale. C'est l'image qu'a donnée LFI ces deux dernières années. Ça n'est pas vrai. On peut tout à fait gouverner et faire voter des lois avec des très larges majorités. Je l'ai fait quand j'étais ministre avec des communistes, des LR, des Verts et évidemment Renaissance qui avait la majorité.
Le tout mélangé ou successivement? Parce que c'est pas tout à fait la même chose.
Non, le tout mélangé, que ce soit la loi de bioéthique, la loi de santé, etc. Donc arrêtons de faire croire aux gens qu'on ne peut pas gouverner ensemble. Ça évite simplement des dérives idéologiques dans un sens ou dans l'autre. Ça oblige à un peu de consensus, ça oblige à beaucoup de travail, mais nous pouvons y arriver.
Apparemment, beaucoup de Français ont envie de dérive en ce moment, si tant est qu'on veuille les
appeler
comme ça.
Je suis désolé, mais la position d'Agnès Buzyn, je suis désolé, madame, mais elle n'est pas du tout claire. C'est-à-dire que vous nous dites que vous soutenez ce Front républicain, mais vous ne soutenez pas, vous personnellement, la France insoumise, et d'une certaine manière, vous dissimulez le cœur de ce Front républicain. Au cœur de ce Front républicain, il y a la France insoumise et il y a Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez.
Elle est très claire, elle nous dit qu'elle veut faire barrage à la France insoumise et au RN.
D'accord.
C'est pas très compliqué
ensuite,
à comprendre.
Et ensuite, construire une majorité demain. Mais c'est
ça, c'est ce qu'on raconte après.
Mathématiquement, madame, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas venir sur un plateau et nous expliquer que demain, en faisant barrage au Rassemblement national et à la France insoumise, Renaissance, avec un peu d'LR, avec un peu de PS, avec un peu de LV, avec quelques communistes, vous pourrez gouverner. Ce n'est pas possible mathématiquement. Il va y avoir un choix.
Vous êtes sûr que ça ne peut pas être majoritaire, cette
possible.
Alliance?
Ce n'est pas possible. Sans la France insoumise, Renaissance ne pourra pas gouverner. Donc, à un moment donné, il va y avoir un choix qui va devoir être fait par Emmanuel Macron et Gabriel Attal. C'est avec qui on gouverne. On a bien compris que ça ne serait pas avec le Rassemblement national. Je dis simplement qu'on ne peut pas simplement occulter le fait que sans la France insoumise, il n'y aura pas de gouvernement.
C'est pas eux qui décident. Enfin, Emmanuel Macron attend quand même l'élection pour savoir si oui ou non le Rassemblement national a la majorité absolue.
Bien sûr, mais dans l'hypothèse où le Front
républicain. Sauf votre respect.
Il nommera Jordan Bardella Premier ministre.
Dans l'hypothèse où le Front républicain fonctionne et empêche Jordan Bardella d'aller à Matignon, c'est quand même, j'ai bien compris, l'objectif principal.
Non, mais et si les Français ne le souhaitent pas, Jordan Bardella à Matignon, il y aura en effet, il n'y a pas d'autre choix, en fait. Un gouvernement de techniciens, c'est comme ça, parce que s'il n'y a que des majorités relatives. Non, et ce n'est pas un choix d'Emmanuel Macron, je veux dire, c'est que...
Ce sera subi, dans tous les cas.
Oui.
Et après, il l'organise comme il le veut, mais voilà.
Après une mauvaise décision...
Il choisit plus grand chose.
Mathieu Vallet.
Déjà, laissons les Françaises et les Français s'exprimer dimanche.
Bien sûr.
Oui.
Voilà, vous avez raison.
Non, mais j'entends beaucoup sur les plateaux qu'on fait des pronostics. Si vous avez cette même méthode miracle pour les numéros du loto, je suis preneur, même si j'aime bien faire le métier et la profession de politique. Non, Mme Buzyn, je me permets de vous interpeller parce que je sais que vous êtes...
Vous avez remarqué que les sondages se sont... pas du tout trompé au premier tour.
Ah mais même pour les européennes.
Par ailleurs.
Tout à fait. Mais je constate que les instituts de sondage ont du mal à déterminer quel sera le résultat de dimanche.
Donc, oui, bien sûr.
Lié au contexte.
Cette émission l'exprime.
Bien
donc
sûr, tout à fait. Oui, non, mais je le conteste pas. Je dis juste que j'attends.
Vous aussi, vous êtes dans l'incertitude. On est d'accord.
Ah mais moi, je crois qu'on va avoir une majorité absolue parce qu'on a un programme. Mais effectivement, j'attends le vote des Français, Monsieur Calvi. Je me permettais de dire à Mme Buzyn, je sais que vous êtes une professionnelle de santé, vous avez été ministre de la Santé de 2017 à 2020, et quand je vous entends faire des leçons de morale sur le Rassemblement national et le barrage républicain, vous savez, j'étais policier, et durant le Covid, madame, alors j'entends qu'on peut tous faire des erreurs, moi le premier, mais elles doivent appeler à l'humilité, attendez, je ne vous ai pas interrompu madame, et je vais vous laisser répondre, mais quand vous avez demandé aux chefs de service de police et de gendarmerie de faire des sanctions administratives pour ceux qui portaient un masque au moment où vous n'aviez pas... Non mais le gouvernement que vous avez soutenu et auquel vous avez appartenu, mais je sais qu'après, on a été bien ingrat avec vous et je suis quelqu'un de juste et je le reconnais. Mais j'estime qu'un peu d'humilité, madame. Durant la crise du Covid, on m'a demandé, et je ne l'ai pas fait, de sanctionner des policiers qui avaient un masque et des gendarmes qui avaient un masque pour se protéger. On m'a demandé de fournir des gels hydroalcooliques que je n'avais pas et dont les syndicats de police ont dû fournir. On m'a demandé, madame, de contrôler des gens qui promenaient leurs chiens et qui
pardonnez-moi, je vous propose, même si c'est très désagréable pour vous, on le laisse terminer pour que vous puissiez lui répondre.
Oui, la vérité fait mal entendre.
Allez-y.
Et donc, je disais, on m'a demandé de vérifier les attestations où on courait dans 5 km, 10 km, si on prenait son chien, si on allait faire ses courses. Donc, Mme Buzyn, oui, vous allez me sortir l'histoire des vaccins russes, mais vous n'avez même pas été capable d'avoir une industrie qui produit des masques en France et des vaccins qui soient produits
Mathieu
en France.
Mathieu Vallet, vous n'allez pas faire la campagne électorale sur cette période. Bah oui, sur le Covid.
Non, mais
ça me semble. Ah, bah si, ce serait intéressant.
Ravalez votre.
Agnès Buzyn vous répond.
Non, je veux quand même rappeler.
Je vais juste demander de l'humilité.
D'abord, je suis partie le 15 février avant que l'épidémie ne démarre ailleurs que la Chine.
Vous n'êtes jamais responsable. Ça, c'est bien.
Non, je suis totalement responsable de tout ce que j'ai fait. Je ne peux pas être responsable des décisions après mon départ. Je suis 100% responsable. Et d'ailleurs, je suis responsable devant la justice, monsieur, vous le savez.
S'il vous plaît.
Par ailleurs, je veux dire quand même que c'est un parti anti-science. Il faut quand même rappeler aux Français que c'est un parti qui soutient encore M. Raoult, quand on connaît toutes les dérives. C'est quand même un parti...
Mais qui a été le voir à Marseille,
non,
madame?
C'est pas non, monsieur Macron? Non, mais... Tous vos députés soutiennent l'idée. Moi, je le vois dans les tweets. Aujourd'hui, le parti anti-science, c'est le Rassemblement national. Et donc, à un moment, il faut aussi qu'on se méfie des gens qu'on va mettre au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils vont tordre dans notre pays et comment on va sortir de cette période-là si des gens aussi, je dirais, éloignés des faits de la réalité. Et c'est ça que je veux dire aux Français qui votent Front National et Rassemblement national. Je comprends les angoisses, la colère, l'adhésion aux thèses protectionnistes, alors que moi je pense que le protectionnisme c'est une erreur fondamentale en fait. On a besoin de souveraineté et la souveraineté ça n'est pas le protectionnisme. Mais donc je leur dis, faites attention, on va se réveiller avec une gueule de bois. La gueule de bois c'est les personnes qu'on va mettre au pouvoir, c'est aussi les discriminations, parce que on ne sait toujours où ça commence, on ne sait jamais où ça se termine. Et donc je rappelle quand même que le Front National sur beaucoup de sujets fondamentaux autour de la vérité n'est pas clair et soutient des gens qui n'ont
aucune
clarté sur la
vérité. Vous dites que vous êtes contre le protectionnisme et durant la campagne européenne, Mme Haye a rejoint M. Bardella sur le juste échange à la place du libre-échange. Vous nous expliquez qu'on a un parti qui fait peur, mais dites donc que vous avez du brouillard dans les yeux. Au 9 juin, parti a fait combien, madame? Il a fait 14%, mais la modestie, c'est pas votre truc, j'en ai bien conscience. Non, mais laissez-moi finir, madame. C'est fini, vous donnez des sons de démocratie.
Vous avez déjà largement fini.
Oui, mais vous, avec votre la bande à un tel, la clique à un tel, moi je suis pas une bande, je suis pas une clique.
S'il vous plaît.
Donc un peu de respect pour les électeurs que je représente.
Et je vous demande...
ai connu beaucoup plus républicain, Mme Rossignol. Et j'ai l'impression que depuis que vous faites des mauvais résultats, vous êtes aigrie, vous êtes grincheuse.
Non, nous, on fait des bons résultats.
Avant, le Parti Socialiste fait des bons résultats.
Terminez votre intervention, s'il vous plaît.
Vous avez fait tellement des bons résultats que vous avez dû vous associer au diable avec la France Insoumise qui veut désarmer la police. Dis donc, M. Clémenceau, qui a créé les Brigades du Tigre, qui doit se retourner dans son tombeau. M. Jaurès, Parti des ouvriers de la région dont je suis issu, quand il voit qu'on a des élus de la France Insoumise qui veulent mettre le SMIC à 1600 euros et qui va effondrer 90% de nos entreprises,
il doit aussi se retourner. Nous y voilà, parlons des questions social et du programme du Rassemblement.
Bon, alors, très bien. Alors, vous vouliez répondre à Mathieu Vallet sur cette question?
Je voulais répondre à ce qui s'est dit avant moi, oui, volontiers.
Oui, bien sûr.
D'abord, pour dire à M. Vallet que, en fait, c'est une bonne chose que vous n'ayez pas remporté l'élection présidentielle de 2017. Parce que Mme Buzyn n'osera peut-être pas le dire, mais si vous aviez gouverné le pays au moment de la pandémie du Covid, alors comment ça serait passé? Non, je ne suis pas répondre à Mme Buzyn, mais j'ai partagé avec elle, à ce moment-là, un certain nombre de réalités scientifiques et aussi avec le gouvernement. Mais qu'est-ce qui serait passé? D'abord, on aurait eu Monsieur Raoult comme ministre de la Santé, sa poudre de perlimpinpin, l'hydrochloroxine qui aurait été distribuée à tout le monde. On n'aurait pas eu de vaccin parce que quand même la majorité de vos candidats sont des candidats anti-vax.
Qui, madame?
Assumez. Ah bah j'ai les noms, vous en voulez vraiment à cet instant, vous voulez qu'on vous parle de vos anti-vax?
Allez-y.
Ah bah vous en manquez pas. Hein. Attendez, je... Coup, ouais. Non, c'est parce que j'ai ma liste.
Bocotelli, allez. Aussi, ou pas, madame?
Non, j'ai la liste des CV de vos candidats, parce qu'on parle beaucoup des nôtres. Alors pour une fois, on peut parler des vôtres.
Oui,
on parle des vôtres, je vais vous les donner dans un instant.
Je vous rappelle que c'est vous qui nous avez amenés dans le Covid.
Voilà. Donc, moi, je ne serais pas allée toute seule.
Bah non, moi non plus.
On n'aurait pas eu de passe sanitaire. On n'aurait pas eu de vaccin. Ou alors, on aurait eu un vaccin russe dont chacun connaît aujourd'hui l'efficacité. C'est ça qui serait passé si vous aviez gouverné la France au moment du Covid. Alors on peut considérer que le gouvernement à ce moment-là peut-être pris des décisions rapides ou pas assez rapides, je ne sais pas franchement.
Alors,
qui aurait fait
madame.
Je ne sais pas. Attends. Qui aurait fait mieux dans ce cas-là? On aurait pu faire différemment, voilà, mais je sais que vous auriez exposé le pays à la pandémie par dogmatisme et idéologie. D'accord. Parce que continuellement, vous accusez la gauche des idées. Non, je ne suis pas voyante. J'ai suivi vos positions, j'étais parlementaire. J'ai regardé ce que faisaient vos députés. Je sais la place qu'ils ont jouée dans les mouvements anti-vax. Je sais qu'ils continuent dans les mouvements anti-vax. Et je sais tout ça. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vous confier le pays parce que vous êtes des idéologues. Et l'idéologie n'est pas... Monsieur, je ne vous ai pas interrompu, donc vous allez faire pareil avec moi. Et si quelqu'un doit pas.
Mathieu Vallet, s'il vous plaît.
Et si quelqu'un doit me dire que j'ai dépassé mon temps, c'est pas vous, c'est monsieur Calvi.
Non, Mathieu Vallet, s'il vous plaît. C'est pas.
Et je ne vois pas en quoi c'est discourtois de vous ramener à vos réalités. Maintenant, vous voulez qu'on parle de vos candidats. Allez, on y va, je les ai. Monsieur Benz, candidat en Haute-Marne, qui prétend que hiérarchiser les races est un travail scientifique. Madame Barthès, monsieur Barthès.
Monsieur Barthès.
C'est pas grave. Monsieur Barthès, qui pose à côté d'une affiche avec marqué va faire la soupe, salope. Madame Grisetti, qui pense que le Covid-19 est un complot mondial.
C'est une affiche derrière lui.
Monsieur, madame Beljakou, qui a pris le personnel de mairie en otage avec une carabine. Bah, je sais pas à quel effet ça vous fait.
De vos alliés aussi, madame.
Ah non, mais nous, on a fait ça pendant jusqu'au premier tour. Alors, on a passé tout le temps.
Je précise que.
Ça vous dérange mais pas, vous voulez des votes ça,
mais moi, on en a parlé beaucoup. Les miens, tout le monde les connaît.
Pas assez, je trouve.
Voilà. Mais les votes, en revanche, on les
découvre.
Vous cessez de m'interrompre, monsieur. Visiblement, ça vous gêne que je parle de vos candidats parce que vous n'avez pas d'autres réponses à apporter que d'essayer de couvrir ma voix.
Ça va être compliqué de laisser parler les adversaires.
Si vous voulez, ce qu'il y a de bien, c'est que la campagne soit
complète. Je crois que les socialistes ont été au pouvoir et qu'on n'a pas vraiment eu l'impression de vivre sous un régime fasciste.
La campagne est courte, mais on a quand même. On est en ce moment en train de découvrir vos candidats. Monsieur, est-ce que vous êtes très gêné que je décrive vos candidats? Vous n'arrêtez pas d'essayer de couvrir ma voix pour m'empêcher de le faire.
Je me dois de dire.
Vous avez un problème avec vos candidats, ce que tout le monde sait.
Je me dois de dire que juste sur ce que vous venez de nous citer et qui est paru notamment dans la presse quotidienne régionale, ce sont des informations que nous n'avons pas pu, nous pour l'instant, encore vérifier de façon définitive. Par ailleurs, elles sont reprises par la presse quotidienne régionale et par un certain nombre de nos confrères. Voilà, je dois juste préciser cela. Vous attendiez, c'est vous qui nous emmenez dans le Covid en fait, parce que
du tout.
Non, mais sans le vouloir. Mais
j'en avais plein d'autres.
Votre présence.
Je comprends que vous passiez à autre chose. Il y a un débat. Mais
ce serait pas mal.
On en a quand même deux. J'en ai deux pages des candidats RN qui sont.
Alors, Monsieur Calvi, est-ce que on tombe dans le débat puéril où on parle pas des programmes, vous voulez que je vous sorte les vôtres, madame? Non, mais honnêtement, on va pas faire.
Allez-y, sortez les candidats socialistes, je vous attends.
Ah, mais. Non, mais monsieur Vallet, une question simple. Pensez-vous, au cas où tout ce que nous venons de citer est avéré, qu'il faut absolument vous séparer de ces candidats? Vous me dites oui, vous me dites non.
Monsieur Calvi.
Je vous parle pas de celui qui est sous curatelle, il est inéligible.
Est-ce que madame Rossignol a demandé à ce que les gens condamnés par la justice.
Donc la réponse est non.
Non, mais.
Ça vous choque pas?
Je peux faire mes réponses.
Vous non, mais je vois. Non, mais je vois. Vous, alors,
voilà.
Vous,
bah oui, dans la démocratie.
Vous savez, oui ou non, c'est facile dans la vie.
Sa réponse, oui, bah j'ai pas l'impression d'être quelqu'un compliqué, monsieur Calvi. Je vous dis simplement que moi, les informations que Mme Rossignol donne, je ne les ai pas. Et que
c'est
quand
dommage.
On dit monsieur ou Mme Barthès, qu'on sait déjà pas qui les a dit, il me semble que c'est.
Monsieur Barthès, député de l'Aude.
Dis donc, voilà. Vous devez être tellement désespéré que vous faites une campagne qui est vraiment sale, en fait.
Mais non, je dis aux Français.
Vous pas entendu
monsieur, je dis aux Français qui peuvent élire.
Mathieu Vallet.
On parle des vôtres alors.
Non, mais je dis
Monsieur
aux Français.
Rappel Arnaud dans la première circonscription d'Avignon, Fichesse, pour appartenance à un mouvement ultra-gauche. Monsieur Mélenchon, condamné par la justice.
Parlez-moi des socialistes.
Des policiers.
Parlez-moi des socialistes.
C'est vos amis, donc je sais
parlez-moi
que
des socialistes.
C'est gênant de.
Vous n'avez rien à dire sur aucun candidat socialiste. Moi, j'en ai deux pages sur vos candidats RN.
Monsieur Gadge, il était plus courageux que vous. Il a quitté cette alliance infâme parce qu'il ne supportait pas les positions antisémites de ce nouvel alliance que vous avez rejoint.
Et j'ai été faire sa campagne. Et j'ai été faire sa campagne la semaine dernière et il va gagner.
Oui, non, mais madame. Je ne parle pas de gagner ou pas gagner, je vous parle de moralité.
Il va être élu,
mais moi, madame,
ce qui prouve que les électeurs sont bons.
Je vous dis simplement qu'il n'y a pas de condamné dans les candidats, contrairement à vos nouveaux alliés, et surtout, il n'y a
fichier,
pas de fichier S.
Ah
ben moi, monsieur
pardonnez-moi.
Vous n'avez que des fichiers S
dans la circonscription où monsieur Arnaud Beltrame est tué.
On est obligé d'avancer parce que ce débat est en train, hélas, de se terminer. Amandine Atalaya, si les jeux sont faits pour dimanche, on va dire au niveau des désistements, les négociations voilà, pour envisager l'avenir après le 7 juillet ne font que commencer avec un nouveau terme employé par Gabriel Attal hier, celui de majorité plurielle pour faire face au RN. De quoi s'agit-il exactement si vous avez compris ce que ça voulait dire?
Assemblée, parce que majorité, il sait que ça va être compliqué. Et pour faire simple, il y a deux scénarios dimanche, il n'y en a pas davantage. Soit le Rassemblement national a la majorité absolue, donc elle est à 289, ça c'est facile, c'est bon, il gouverne. Ou à 270, Marine Le Pen a dit ce matin que s'ils avaient 270 députés, ils essaieraient d'aller chercher 19 personnes, notamment de droite, pour avoir des troupes suffisantes à l'Assemblée pour gouverner avec Jordan Bardella, Premier ministre. Option numéro 2. Ouais.
Non, non, d'où ce terme d'assemblée plurielle.
Là, on arrive à option numéro 2, c'est l'assemblée plurielle. Oui, de fait, elle est plurielle. Ça veut dire que personne n'est en capacité de gouverner avec une majorité absolue. Auquel cas, c'est un gouvernement de techniciens, comme on dit, c'est-à-dire. qu'au final, la France est bloquée, en résumé, parce qu'il sera extrêmement difficile d'arriver à faire passer des textes. Et de toute façon, voilà, c'est une période qui n'est pas glorieuse, qui s'ouvre si c'est des majorités relatives.
Si le RN n'est pas au pouvoir, Agnès Buzyn, qu'est-ce qui vous paraît le plus probable, voire souhaitable comme scénario dans ce qu'on vient d'évoquer? Gouvernement technique, assemblée plurielle?
Moi, je ne crois pas qu'un gouvernement technique soit une catastrophe. La Belgique a vécu sans gouvernement pendant 2 ans, elle s'en est très, très bien tirée. Elle s'en est très bien tirée. Et puis, je pense qu'il y a des hommes et des femmes de bonne volonté, des hauts fonctionnaires ou des politiques respectés qui peuvent aujourd'hui faire un travail à minima pour voter les budgets, pour faire voter les budgets. On n'est pas obligé de légiférer tous les jours. Il y a d'autres moyens de travailler et je pense que dans un an, éventuellement, on aura apaisé le pays. Peut-être qu'on aura eu le temps d'avoir un débat sur des programmes dignes de ce nom et qui ne soient pas des programmes complètement effrayants, en fait, pour les marchés financiers notamment, mais pour nos concitoyens qui vont s'appauvrir aussi. Et je pense que dans un an, peut-être qu'on pourra reprendre des élections dans un climat différent avec un pays qui se sera... qui peut être tenu par des techniciens de très bonne qualité que nous avons dans ce pays.
Merci à tous.